Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jacques Imolima pour les journaux.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. En voici les titres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a bouclé ce vendredi sa mini tournée africaine de 3 jours dans les pays des Grands Lacs. Il a été successivement en Angola, au Kenya et au Congo voisin. Retour sur ses périples dans ce journal avec Pascal Matrika. Et puis, poursuite au Nord Kivu de procès Tabo Taberi Tcheka, la cour militaire opérationnelle veut savoir si ce chef milicien a participé à un moment insurrectionnel. Enfin, embellie dans la courbe de production du cuivre et du cobalt. En 2018, la RDC a augmenté de 43% sa production de cobalt et près de 13% celui du cuivre par rapport à l'année précédente. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Fin ce soir de la première visite officielle du président de la République démocratique du Congo dans 3 pays de la région africaine. Félix-Antoine Tshisekedi a séjourné successivement à Luanda en Angola, à Nairobi au Kenya et à Brazzaville au Congo. Dont c'était la première étape. Retour sur ce périple de 3 jours avec Pascal Masirika.
Après l'Angola et le Kenya, le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, a poursuivi sa tournée diplomatique sous-régionale à Brazzaville, où il a échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo. Les discussions entre les deux hommes d'État ont porté sur divers sujets d'actualité, mais dont la teneur n'a pas été divulguée. Mais auparavant, des membres de la diaspora, massés à l'aéroport de Mayamaya, ont salué ce qu'ils considèrent comme une visite de réconfort. Ils ont promis de lui apporter le soutien dont il a besoin pour relever les nombreux défis de son quinquennat. Ils ont également exprimé le souhait de voir Tshisekedi Tshilombo s'occuper d'abord du peuple congolais, comme l'avait préconisé son défunt père Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ils pensent que le progrès du pays est à ses prix. L'étape de Brazzaville a été cruciale, d'autant plus que Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président de la CIRGL, s'était investi comme médiateur en RDC lors de la période électorale tendue. Le chef de l'État a donc regagné Kinshasa ce soir par le Beach Ngobila.
Début ce vendredi à la Cour constitutionnelle des audiences publiques en contestation des résultats provisoires de la CENI pour les élections à la députation nationale. Au total, 31 causes sont inscrites au rôle, dont 10 pour la Chambre, 1 et 21 pour la Chambre et 2 de la Cour. Ces audiences constituent donc la dernière étape du processus électoral pour la députation nationale, car l'arrêt de cette Cour est irrévocable et opposable à tous. Les différents arrêts confirmeront définitivement donc l'élection de ceux qui auront gain de cause devant la Cour. Retour sur le déroulement de ces audiences avec Billy Ivan Lutumba.
L'audience publique de la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoral de candidature, est déclarée ouverte.
Il est 13h locale quand le président de la Chambre une de la Cour débute l'audience dans une salle pleine de toges noires pour appuyer les requêtes en contestation et d'autres pour la défense. En tête sous l'extrait des rôles de la Chambre 1, la cause AFDCA contre la CENI, contre Ngoï Kassanji du BPRD et contre José Panda de l'ADRP. Contre toute attente, durant l'audience, l'avocat de l'AFDCA se prononce.
Qu'il vous plaise, monsieur le président, dans le membre de la proposition, de prendre acte de désistement de l'AFDC.
Quant aux raisons de ce désistement, Maître Willy Wenga se limite à ces mots.
L'AFDC, avec son président, appartient à une dynamique. Et je suis sûr et certain que c'est une dynamique interne qui fait que l'AFDC soit comporté de cette manière-là. Quant aux raisons très profondes, en tant qu'avocat, je n'ai pas été au courant de cela. Ça reste peut-être du domaine du politique.
Satisfaction de la partie contestée, Maître José Panda venu en personne à l'audience et qui, en tant que politique, explique que
l'autorité morale du FCC a donné le mot d'ordre que les regroupements de l'FCC ne peuvent pas faire les requêtes croisées. Nous sommes en train de suivre les d'ordre, et surtout que nous avons une majorité parlementaire consolidée, donc il y a eu des désistements en général pour tous les recrutements du FCC.
Pendant ce temps, la Chambre 2 poursuit à traiter les 21 autres causes inscrites au rôle. Elles sont dans l'ensemble à la Chambre 1 tout comme la 2, prise en délibéré et la Cour dispose de 60 jours pour rendre ses arrêts.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, affaire du chef milicien Tcheka Tabo Taberi. L'instruction se poursuit depuis l'ouverture du procès en novembre de l'année dernière. Hier jeudi, la Cour militaire opérationnelle a statué sur la prévention de participation à un mouvement insurrectionnel. L'une des 6 préventions pour lesquelles Tcheka est inculpé, c'est donc encore le suspense quant à la confirmation ou non de cette infraction. Le récit de Gabriel Loamenia.
Lors de la déposition des trois principales parties au procès qui a duré de longues heures, chacune a essayé de tirer la couverture de son côté. Tcheka et son conseil ont bataillé dur pour réfuter les chefs d'accusation de participation au mouvement insurrectionnel. Ils ont largement soutenu avoir collaboré avec le gouvernement, affirmant avoir été ravitaillés en munitions par un bataillon des FARDC basé jadis à Mungazi, non loin de Bunyampour et en groupement Iana dans les territoires de Walikale. Tcheka dit aussi avoir sécurisé les kits des élections en 2011. Mais pour l'organe d'accusation ainsi que la partie civile, Tcheka a mis à mal l'État congolais. Suivez les explications de l'auditeur opérationnel, le colonel Mwedi.
Ils ont mis l'État en difficulté. Ils ont occupé des localités. Ils ont occupé les territoires au point que l'État, les troupes de l'État ne peuvent pas y arriver. Il faut pour cela que ces gens collaborent avec eux. Ça ne leur enlève pas le caractère insurrectionnel.
Avec les procès qui a repris ce vendredi, les juges sont en train de statuer sur la confirmation ou non de cette prévention de participation au mouvement insurrectionnel contre Tcheka. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, attaque la nuit dernière à Rwangoma, un quartier de la commune de Béou, situé dans la périphérie de la ville de Béni. Les assaillants ne sont jusque-là pas identifiés. Selon les sources locales, le bilan provisoire fait état de 4 civils tués et quelques maisons pillées. Marcel Papi Moukeba.
C'est aux environs de 20h, heure locale, que des hommes armés ont fait incursion à Rwangoma. Selon les sources militaires, les assaillants ont contourné toutes les positions des FARDC avant de s'infiltrer dans ces quartiers périphériques de la ville de Béni. Ils se sont ensuite attaqués aux populations civiles. Les sources locales qui disent que l'intervention des FARDC a empêché les pires parlent des 4 civils tués, d'autres kidnappés et quelques maisons pillées par les assaillants. Mais les sources militaires donnent un bilan d'une personne tués et 3 kiosques pillés. Ces mêmes sources disent que pour l'instant, l'identité exacte des auteurs de l'attaque de Rwangoma n'est pas encore connue, car depuis quelques jours, les FARDC font face aux groupes armés ADF et Mai Mai dans la région de Béni. D'autres sources sécuritaires disent que les assaillants étaient accompagnés de femmes et enfants, ce qui ressemblerait au mode opératoire de l'ADF. Signalons que jusque ce matin, les détonations en armes lourdes et légères étaient encore attendues dans les périphéries de Rwangoma. Les FARDC parlent d'une opération de poursuite des assaillants. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
En Ituri, la population de la chefferie de Walendu Bindi salue la réduction ces derniers jours des cas de violence armée dans leurs entités. Leurs délégués l'ont reconnu ce jeudi à Geti lors d'une rencontre organisée sur place par une délégation d'évaluation du projet Pamoja Kwa Amani. Selon ses représentants, cette situation se justifie par l'évolution des pourparlers entre le gouvernement congolais et les leaders de la milice de FRPI active dans cette entité. Les détails avec Marcel Kizabiamungu.
C'est presque 18 ans que la chefferie de Walendu Bindi, au sud du territoire Kiromo, est confrontée par des tueries, viols, pillages, incursions répétées de présumés militants de FRPI dans plusieurs villages de cette entité. Des fois, des affrontements armés sont signalés entre les FARDC et les FRPI. Un décor qui semble être effacé petit à petit, constaté par des membres des différentes couches de la population de cette entité. Selon elle, c'est le fruit des avancées significatives des processus de révision des éléments de FRPI dans le cadre du programme Pamoja Kwa Amani. Elles ajoutent que depuis l'accélération des pourparlers entre les FRPI et les gouvernements, la population circule librement, même dans la nuit, dans plusieurs localités de Walendu Bindi, sans être inquiétée, contrairement auparavant. Les différentes couches de la population souhaitent que ce processus arrive au bout pour trouver la paix durable dans le sud du Homo. Depuis Geti, Martial Kizakiamongo, Radio Okapi.
Dans la province du Kasaï, plus de 2000 Congolais expulsés d'Angola sont sortis par la frontière de Kamako. Des sources frontalières qui ont livré ces chiffres affirment que, c'est la semaine passée, que la plupart des expulsés sont arrivés. L'administrateur du territoire de Tikapa qui confirme l'arrivée de ces personnes expulsées invite les Congolais désirant se rendre en Angola à se conformer aux procédures de migration. Jean-Paul Kouzou a été joint au téléphone par Blaise Ndongala.
Demandons toujours à nos frères de rester sur notre sol au lieu d'aller à l'étranger d'une manière irrégulière. Qu'on y aille d'une manière autorisée, avec des papiers tout à fait légaux. Mais quand on entre d'une manière cachée, on risque sa vie. L'Angola est dans ses droits de refouler tout Congolais qui réside sur son sol d'une manière irrégulière. Tout comme nous, nous avons le droit de refouler tout étranger qui est chez nous d'une manière irrégulière. Il n'y a jamais eu un quelconque site de regroupement de refoulés. On n'a pas les moyens pour les regrouper à un endroit. Pour les regrouper, il faudra leur donner à manger un minimum. Mais ils traversent la frontière. Ce sont les Congolais, ils sont déjà dans leur pays. Chacun se dirige vers son village.
L'invité.
Notre invité, c'est Valentin Djoussou. Il est responsable de l'unité correction de la MONUSCO. Il nous parle de la mise en place à Kananga semaine dernière d'un groupe de réflexion pour proposer des solutions en faveur des détenus vulnérables de la prison centrale. Il s'entretient avec Blaise Ndongala. Suivez.
Monsieur Valentin Djoussou Tankpino, bonjour.
Bonjour.
La section correction de la MONUSCO Kananga a organisé un échange sur les détenus vulnérables de la prison centrale. Pourquoi avoir initié une telle rencontre?
Les autorités de l'administration pénitentiaire de la prison de Kananga font face à d'énormes difficultés d'encadrement des détenus. Des difficultés telles que la surpopulation carcérale. Et cette difficulté maintenant engendre d'autres difficultés que l'État normalement doit avoir la responsabilité de gérer. Ce qui nous a amené à réunir les acteurs et venir dans le cadre de la détention pour que nous ayons un regard sur là, parce que c'est des questions qui étaient d'actualité depuis plus de 2 ans et les autorités locales le savent, mais les actions concrètes manquent.
Alors, qu'est-ce que la MONUSCO attend du groupe thématique qui vient d'être mis en place?
Ce que la MONUSCO attend, c'est que les autorités en charge de la gestion d'une institution comme la prison jouent leur rôle comme cela se doit. Et selon les réglementations, à savoir l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 et les règles Mandela, qui stipulent que lorsqu'un détenu est malade, il doit être pris en charge. Des fois même, il est recommandé que cette prise en charge continue même après la libération de ce dernier. Donc, l'idée pour nous, c'est que l'État prenne sa responsabilité. Et je crois que avoir la façon dont les autorités locales se sont intéressés à la chose. Nous sommes sûrs qu'un résultat va sortir de cela. Parce que nous avons fait des recommandations dans le sens de mettre la main à la pâte, que tous les acteurs, évidemment dans le cadre de la détention, s'impliquent. Et que le rôle que l'État aura joué, ce sera un rôle unifié. Que les actions ne soient pas isolées. Parce que par le passé, on a constaté que c'était un peu isolé. Bon, et chacun vient, mais ce qu'on a fait, on trouve que ça manque, quelque chose manque. Mais quand on sera tous ensemble, dès qu'il y aura quelque chose qui va fléchir, et les partenaires, et les locaux, ça va suivre. Parce qu'il y a la MONUSCO qui est intéressée à cela. Il y a le CIC également qui fait beaucoup de dégâts au niveau de la prison. Il y a Séplica qui suit de près. Et il y a maintenant les acteurs de la justice qui, dès qu'on leur frappe à la faute, ils ouvrent grandement. Et je vois qu'en réalité, il n'y a pas d'obstacle à agir à l'endroit des détenus dits vulnérables. Il suffit maintenant d'unir les actions et que ce que nous disons soit pris en compte directement par qui de droit et le problème est réglé.
Quelles sont les caractéristiques d'un détenu dit vulnérable et ils sont au total combien dans la prison centrale de Kananga?
Si je dois vous donner ça en détail, nous avons par exemple au niveau des détenus dits handicapés physiques, nous avons 13. Au niveau des détenus malades épileptiques, nous avons 17. Et au niveau des malades présumés malades mentaux, nous avons 51. Au total de plus de 7 ans de détenus qui sont des présumés et vulnérables.
Alors quelles recommandations pouvez-vous faire à l'intention d'abord des responsables de la prison et puis les autorités judiciaires de la région?
Il est question maintenant que nous essayons pour faire ce que nous appelons consortium. Il faut maintenant mettre tous les acteurs autour de la question pour que la solution vienne de toutes les parties représentant l'État dans cette entité que nous appelons prison. La recommandation n'est pas venue de nous directement, mais de la réunion que nous avons faite, où on s'est d'abord entendu pour créer un groupe de travail sur les personnes vulnérables de la prison. Ça, c'est important. Et toutes les parties qui étaient représentées dans la réunion ont adopté cette recommandation que nous faisions un groupe de travail qui va faire des propositions à l'État. Et dans ce groupe de travail, presque toutes les parties sont représentées, à savoir le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, l'auditeur militaire, l'auditoire militaire, le parquet général. Donc presque toutes les parties sont représentées. Et on fera des propositions concrètes qui vont partir vers les autorités et des actes concrets seront posés. La deuxième proposition, ça parle de la descente d'une équipe d'experts dans la prison centrale de Kananga, motivée par une autorisation des juges en charge des dossiers de chaque détenu. Donc les experts médicaux, les experts en charge de la santé mentale et épileptique, ils font descendre de la prison pour faire une expertise et déclarer ceux qui sont vraiment malades et envoyer le rapport vers les juges pour qu'une décision valable soit prise. L'autre recommandation également, c'est de faire un chronogramme pour que le groupe de travail qui sera en charge du suivi de ces cas se réunisse de temps en temps et fasse des propositions aux autorités politiques pour que la réalité soit touchée directement avec le doigt. Donc l'idéal, c'est d'unir un certain nombre de personnalités autour de cette question qui se réunissent chaque fois et faire des propositions aux autorités. Que les actions ne soient pas isolées, que les actions soient concentrées et tout le monde a adopté. Un rapport sera fait et envoyé vers les autorités pour que quelque chose soit fait à l'égard des détenus vulnérables.
Monsieur Valentin Djoussou, Radio Capi vous dit merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.